Savez-vous bien rire? Je vous pose la question ce matin parce que si, comme disait l'autre, le rire est le propre de l'homme, s'il y a mille façons de rire et si certains y voient même une thérapie au quotidien, ben, y a des jours où rien n'y fait, on a beau se forcer, ça vient pas. On a beau jouer des maxillaires, tenter un spasme ou même une convulsion, c'est difficile à jouer le rire. C'est nerveux, ça s'invente pas. Qu'il s'agisse de rire gêné ou de rire jaune, de fou rire ou de rire forcé, de rire un peu con, de rire contagieux, de rire défensif, dément, déplacé, de rire grimaçant, sarcastique, inferno, diabolique. Quelle que soit l'émotion, elle vous trahit dans toute sa vérité. Ce qui fait de l'art de rire une occupation beaucoup plus sérieuse qu'il n'y paraît, je pense à ce texte magnifique de Thomas Bernhard qui s'appelle « Le naufragé » et dans lequel il esquisse un délicieux portrait du pianiste Glenn Gould, dont il dit que plus que quiconque, il était capable d'une sorte de rire irrépressible et donc qu'il n'y avait pas d'homme à prendre davantage au sérieux. « Celui qui ne sait pas rire, écrit Thomas Bernhard, ne doit pas être pris au sérieux, mais celui ou celle qui joue le rire et qu'il joue bien, si bien qu'on jurerait qu'il est dans le vrai. Quel genre de diable est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on en fait ?»
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui nous fait passer par toutes les émotions. Elle est comédienne, palmée pour Maps to the Stars, oscarisée pour Still Alice, iconisée pour Magnolia, Loin du paradis, The Big Lebowski. Dans deux semaines, on la retrouvera à l'affiche de Gloria Bell, de Sébastien Lelio, où elle crève l'écran littéralement dans le rôle d'une quinquagénaire divorcée qui ne se laisse abattre par rien. C'est sensible, sur le fil, infiniment juste. Bonjour Julianne Moore.
Bonjour, thanks for having me.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce que le rire libère en vous?
I think you have to feel free to
Je pense qu'il faut se sentir libre pour pouvoir rire à l'écran. Et ça, c'est des choses qu'on apprend en travaillant. C'est qu'on ne peut produire ce rire authentique que si on se sent libre.
C'est plus difficile de rire ou de pleurer, Julianne Moore?
It's harder to laugh.
C'est plus dur de rire.
Vraiment,
dit-elle en riant.
Yeah, I think it's harder.
C'est plus difficile d'avoir un rire qui a l'air d'un vrai rire.
Du coup, est-ce qu'il vous arrive pour le simple plaisir de ressentir tout cela ou d'apprendre aussi le rire, d'éclater de rire volontairement, comme on le voit dans le film où votre personnage, Gloria Bell, participe à un groupe de thérapie par le rire?
Moi, c'était tout à fait inhabituel. Je crois que Sébastien Lelio, qui est chilien, a dit qu'il avait fait une espèce de thérapie un peu bizarre, une sorte de thérapie du rire, et il voulait le mettre dans le film. Mais j'adore, c'est vraiment inhabituel.
Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, dans la vie?
Oh God, people.
Les gens.
You know, people always make me laugh.
Les gens me font rire toujours. Je me dis toujours que on est tellement drôle sans faire exprès souvent. Quasiment tout est drôle. Je dis toujours à ma fille, lorsqu'on parle de l'humour, je dis, je pense que c'est vraiment, ça en dit long sur les gens, leur humour.
Et au cinéma, Julianne Moore, votre plus grand éclat de rire devant un écran, est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous pourriez nous le donner?
Oh God, I'm trying to remember.
J'essaie de me souvenir.
The person who always
la personne qui me fait vraiment rire, c'est Steve Carell. Je trouve qu'il est vraiment bluffant. Il est vraiment surprenant. Et dans 40 ans toujours puceau, là, je trouve que vraiment, c'est là qu'on l'a tous découvert au cinéma, puisqu'il avait fait de la télévision avant cela. Et dans ce film-là, on se marre du début à la fin.
Et votre plus grand rire à vous en tant que comédienne, je pense tout de suite au rire nerveux de Magnolia, de P.T. Anderson, au rire gêné de The Hours de Stephen Daldry ou au rire salvateur de Gloria Bell, quel serait-il?
Je pense que mon préféré, c'est dans le Big Lebowski, quand je dis... C'est vraiment génial. Il y a David Soulis qui est dans la scène, qui commence à rire aussi. Après, Jeff Bridges qui est là aussi et qui nous regarde et qui se demande pourquoi on rit. J'adore.
C'est un rire mémorable. Gloria Bell, votre personnage, dans ce nouveau film, c'est donc cette Américaine divorcée dont les enfants sont grands, dont le quotidien est un peu morose, bien qu'elle fasse tout pour l'illuminer, lui donner un sens. Et ce qu'on voit en fait, c'est que c'est une femme qui essaie de lâcher prise, et notamment par la danse. Pourquoi est-ce qu'elle danse, à votre avis?
Oh, she dances because it puts her in touch with herself.
Elle danse parce que ça la met en lien avec elle-même. C'est la manière pour elle d'exprimer sa joie, qui elle est, et elle aime la musique, elle aime bouger. C'est quelque chose qu'elle a fait toute sa vie, quasiment, et qu'elle continue à le faire.
Vous dansez, vous? Quel genre de danseuse est-ce que vous êtes?
No.
Vous l'êtes dans le film.
I am in the movie.
Oui, dans le film, effectivement. Et John Turturro est danseur. D'ailleurs, il prend des cours régulièrement. Il a fallu que je fasse, moi aussi, pour le film. Donc, on a pris des cours ensemble. C'est tellement agréable de travailler avec lui. C'est vraiment un acteur hors pair, un partenaire exceptionnel. Et il pense que la danse est source de bonheur. Et c'est toujours magnifique de se retrouver avec des gens qui sont vraiment des danseurs.
Mais vous, vous ne dansez pas, vous me dites facilement en public. Je suppose qu'il vous faut quelques verres avant de mettre le feu au dance floor, Julianne.
Moi, j'aime bien danser quand je suis invitée à un mariage. Voilà.
Qu'est-ce qui vous donne immanquablement l'envie de danser?
Les mariages, oui. Parce que ce sont des occasions magnifiques. On est là pour fêter quelque chose de joyeux. On est avec des gens qu'on connaît en général et qu'on aime beaucoup, donc on se sent vraiment bien. C'est les moments, je crois, où j'adore danser.
Et une chanson en particulier?
J'adore Brick House. C'est vraiment ma chanson préférée des Commodores.
Je ne vais pas décrire les mouvements qui sont les miens parce que ça risquerait d'être très embarrassant. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la manière dont la danse mobilise le corps omniprésent dans Gloria Bell. Dans quelle mesure est-ce que ce film, c'est peut-être d'abord un film sur le corps?
Ça, c'est une question intéressante. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on me la pose. C'est l'histoire de quelqu'un. C'est l'histoire du soi de quelqu'un, en fait. Et la manière dont ça a été filmé par le réalisateur, c'est très intime. On a l'impression de se voir soi. Donc, on a ce sens quasiment physique de ce que c'est que d'incarner une personne dans un corps. Et cette remarque que vous avez faite me plaît, je pense que c'est une très bonne manière de voir les choses.
Hi Peter, I haven't heard from you in a while, so I thought I'd give you a call. That's it. I love you. It's your mother. And
then life just goes by in a flash, like that.
I know. You tell me the same thing every 10 years.
Love is in the air.
You come here a lot?
Yes. No, not a lot. I mean, sometimes.
What's your name?
Gloria.
And I don't know if I'm being a fool.
Hello? Are you asking me out?
Love is in the air.
A little more. If you were water, I'd be a glass. If you were a foot, I'd be a sock. Can't get you out of my head.
This woman is awesome. Treat her right. Respect her.
Is that him?
Yeah. Oh my God.
I mean, this guy could die tomorrow.
We could all die tomorrow.
Well, when the world blows up, I hope I go down dancing.
Julianne Moore, quelle relation est-ce que Gloria Bell entretient avec son corps?
Je pense qu'elle se sent bien dans son corps. C'est quelqu'un qui est très intégré, qui se sent bien, à l'aise, et c'est pour ça qu'on l'aime. Elle prend vraiment la vie comme elle vient, très complète, de manière très complète. Elle fait ce qui la rend heureuse, heureuse au plan affectif notamment, les choses où elle se sent bien physiquement. Donc, on s'identifie à elle parce qu'elle se sent bien dans son soi à elle.
C'est toujours passionnant d'interroger un comédien sur le corps. Quel outil est-ce que c'est le corps pour vous, Julianne Moore, en tant que comédienne?
Oh, God. Well, I don't know. I mean,
je ne sais pas. Je pense qu'on se rend compte que souvent, on prend le corps comme allant de soi. On est agile, on est mobile. Ce sont des choses qui contribuent à mon bien-être. Je dépends de mon corps, évidemment, en tant qu'actrice, pour communiquer. Nous envoyons des messages physiques avec nos mouvements, la manière dont on s'habille, nos expressions. On dit beaucoup, je crois, aussi bien consciemment qu'inconsciemment avec notre corps.
Vous dire qu'il y a des signaux que vous envoyez à votre partenaire, par exemple dans le film, qui ne se voient pas, qui ne s'entendent pas.
Non, je pense qu'en fait le spectateur les perçoit. Ces signaux. Et on les reconnaît d'ailleurs pour la plupart parce que ce sont des choses que nous-mêmes faisons. Alors on est peut-être différent physiquement selon que l'on est avec des amis ou avec notre mère ou quelqu'un d'autre. Ou au travail. Il y a des choses que l'on communique sans rien dire, justement.
Je vous pose aussi la question parce que votre corps, vous l'offrez, vous l'abandonnez à la caméra de Sébastien Lelio. Si vous deviez réfléchir à une scène d'amour qui vous a marqué en tant que spectatrice, Julianne Moore, au cinéma, quelle serait-elle ?
Je réfléchis, une scène d'amour, je dirais Julie Christie et Donald Sutherland dans Ne vous retournez pas. Je pense que c'était une scène absolument spectaculaire, la manière dont elle a monté en plus. Beaucoup d'affectifs et beaucoup d'intimité dans cette scène.
Et qu'est-ce qui se passe en fait ?
C'est parce que l'histoire, ce sont ces deux personnes, ce qu'elles ressentent l'un par rapport à l'autre, comment ils arrivent à communiquer alors qu'ils viennent de vivre une perte terrible. Et ils ont un historique dans cette relation. Ce n'est pas la première fois, ils sont mariés et ils sont dans un lieu un peu bizarre. C'est quelque chose de puissant, je crois, effectivement.
Et la vulnérabilité, c'est ce qui me frappe dans la scène dont vous parlez. Qu'est-ce qui vous rend vulnérable, vous, Julianne Moore ?
Je ne sais pas si c'est vraiment rendre vulnérable. C'est peut-être plutôt comment est-ce qu'on peut être vulnérable. Moi ou les autres d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour être vulnérable ? Comment on gère cela tout en étant présent ? Et c'est ce qui est intéressant dans Gloria Bell et avec ce personnage, c'est qu'elle traverse la vie avec une grande vulnérabilité et pourtant, elle a une grande résilience. Incroyable. Donc elle ne se protège pas.
Et
elle accueille quasiment tout, y compris le conflit. Elle est très impulsive, presque irresponsable par moments, mais toujours authentique. Et j'ai été très inspirée par ce personnage. Je me suis dit, j'aimerais bien lui ressembler davantage. J'aimerais être moins opaque, plus vulnérable, plus présente tout le temps. Et c'est une chose très difficile à faire pour nous tous.
Oui, parce qu'être vulnérable, ce n'est pas être faible, si.
Absolutely not.
Oh que non.
I think it just means that you're human.
Ça veut juste dire qu'on est humain.
Notamment dans le film, Gloria Bell chante au volant de sa voiture des chansons romantiques sur des amours déçus. Ce sont des moments très forts. Ça vous arrive, ça, vous aussi ?
I don't know.
Je ne chante pas vraiment beaucoup en voiture. J'ai plutôt tendance à écouter la radio, les infos, des audiolivres aussi. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle aime la musique. Et Sébastien Lelio vous le dira, c'est quasiment une comédie musicale secrète. Il y a des titres, des chansons toutes les 5 minutes, les titres qu'elle aime écouter ou danser, on les entend à la radio. Et ça nous donne, vous savez, un accès, c'est-à-dire que la musique, ça touche tout le monde. Ça nous renvoie de l'affectif et c'est des titres et des chansons qui sont, qu'on aime tous, qui nous renvoient tous à quelque chose, hein, où qu'on soit dans le monde d'ailleurs.
Mais moi, je vous imaginais plutôt hard rock ou gangsta rap, Julianne.
Rather than books on tape.
Plutôt que livre audio.
Soyons fous, si vous deviez nous emmener pour une petite virée en voiture, là tout de suite, quelle cassette est-ce que vous glisseriez dans le radiocassette maintenant et que vous fredonneriez, j'imagine.
What would I play?
Qu'est-ce que je mettrais dans le radiocassette, hein?
Probably... Well, probably would take me forever to
peut-être, find something. J'y verserai pendant like un bon moment, R&B, je crois. You know? Mais un bon vieux R&B. Like Barry White, par exemple. J'adore Barry White.
Ah bah vous savez, dans cette émission, j'aime bien faire comme si on était au cinéma. Essayer de faire surgir des images. Alors je vous laisse vous installer sur le siège passager de ma Twingo et je vous embarque pour un petit tour de pâté de maison autour de la maison de la radio, juste le temps d'écouter Barry White, puisque vous me le demandez si gentiment. Vous êtes sur France Inter avec Julianne Moore. Vous écoutez Boomerang, naturellement.
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors on est quelque part entre Anne, la mutine héroïne de la littérature jeunesse qui rêve devant sa maison au pignon vert, Ariel, la petite sirène de Walt Disney, et Virginia, ma cousine rebelle, mais bien sous tout rapport, rien qui dépasse, des manières irréprochables, une voix posée, réfléchie, rassurante. Mais quand la fièvre du mercredi soir s'empare d'elle, Travolta n'a qu'à bien se tenir avec sa petite robe rouge et sa veste noire. Ce matin, la comédienne américaine Julianne Moore, invitée de Boomerang pour son rôle dans Gloria Bell, en salle dans 2 semaines, Le Quotidien, d'une femme seule, bien décidée à profiter de la vie dans l'Amérique d'aujourd'hui. Un film qui est loin d'être déconnecté d'enjeux contemporains. Je pense notamment à la question des armes à feu et de la guerre qui apparaissent en filigrane tout au long du film. Dans quelle Amérique est-ce que vous avez l'impression de vivre, vous ?
C'est
un moment difficile. Je suis très impliquée dans la réforme du port d'armes aux États-Unis. C'est très important. Et je pense que les Américains sont pour ça aussi, pour une réglementation du port d'armes. Nous sommes, comme la plupart d'ailleurs, des détenteurs d'armes eux-mêmes. Donc, il y a des gens qui malheureusement sont au pouvoir actuellement, qui ont subi le lobbying de la NRA, et il va falloir que les choses changent. Mais ce qui est bien, c'est que, vous savez, comme dans le cas de l'égalité d'accès au mariage, les choses se sont faites état par état, la loi a changé dans les États petit à petit, au final, les États étaient majoritaires, et la Cour suprême a tranché, c'est ce qui va se passer, j'espère, j'y crois vraiment, avec le port d'armes aussi.
D'être optimiste.
I am.
Oui, yeah. Oui, je le suis.
Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée, une phrase qui dit que les garçons ont toujours aimé jouer à la guerre. L'idée que tenir une arme serait quelque chose d'inné, de naturel. Qu'est-ce que vous en faites, vous, de cette phrase?
Well, I think it's interesting.
Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on a cet homme, cet adulte, qui a cette espèce de fantasme, qui aime faire du tir pendant ses moments de loisir. Elle est tolérante par rapport à cela, mais c'est un fantasme pour lui, c'est-à-dire que voilà, c'est pas vraiment réel. Hein. Et il n'est pas réaliste de toute façon, même dans les choix de vie qu'il fait. Donc cette idée que les gens jouent des jeux, et cet homme-là, il fait la même chose. Il joue un jeu qu'il devrait peut-être pas jouer. C'est la métaphore un petit peu de la manière dont il mène sa vie aussi.
C'est aussi un homme américain. Est-ce que vous diriez que la guerre est une obsession américaine, Julianne Moore?
Je ne pense pas que ce soit une obsession exclusivement américaine. Malheureusement, c'est un des moyens que les gens ont utilisé pour résoudre les problèmes à travers la domination de quelqu'un d'autre ou d'un autre pays ou d'un autre être. Et je me plais à croire qu'on peut aller un peu plus loin que cela.
Quand même, mais c'est passionnant, c'est que l'Amérique est en déclin et que le monde n'en a plus pour très longtemps. C'est un peu comme si votre personnage dansait sur un volcan. D'ailleurs, c'est une phrase du film. Sur quel volcan est-ce que vous avez l'impression de danser, vous, en ce moment?
Ce que je pense, c'est qu'on traverse des périodes d'optimisme, puis de pessimisme. Et je me dis que, effectivement, il y a eu beaucoup de changements, tellement vite. Les gens ont du mal à suivre. Nous tous avons du mal à suivre. Et je pense que pour aller de l'avant, nous devons tenir compte des besoins de tout le monde et pas d'une petite minorité. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'instabilité à cause de cela.
Quel est le rôle de l'acteur, de l'industrie du cinéma aussi, dans ce moment de l'histoire?
Très souvent, les gens se posent la question, est-ce qu'un film, ça fait changer les avis? Est-ce que ça fait bouger l'opinion? En fait, nous reflétons ce qui se passe au plan culturel et nous donnons au public un lieu où ils vont pouvoir réfléchir à eux-mêmes, au monde, de manière plus générale. Et c'est magnifique de participer à ce discours-là qui va permettre à tous les gens de réfléchir sur eux-mêmes.
Votre lien avec votre pays, Julianne Moore, il est assez complexe. Votre père est américain, militaire, votre mère est écossaise, britannique. Comment et pourquoi est-ce qu'elle est arrivée aux États-Unis? Il faut nous raconter.
Ma mère était une immigrante. Et je pense que c'est important de le dire, surtout dans le contexte actuel avec le débat sur l'immigration aux États-Unis. Moi, j'aime rappeler aux gens que je suis une Américaine de la première génération, donc elle est arrivée aux États-Unis avec ses parents, elle avait 10 ans, et elle a dû attendre 27 ans pour avoir son passeport. Aux États-Unis, il faut renoncer à son passeport antérieur, et ça a été très dur pour elle.
Vous vous souvenez du jour où elle a renoncé à sa nationalité, où elle est devenue américaine, dans quel état elle était?
Oui, je m'en souviens. J'en ai d'ailleurs déjà parlé. Ma mère était encore jeune, moi je crois que j'avais 7 ans à l'époque. Elle est rentrée à la maison avec son passeport américain, n'avait que 27 ans et elle pleurait. Et c'était dur devoir faire ce choix entre deux pays. En tout cas, moi j'ai grandi avec cette idée qu'on ne vient pas forcément d'un seul lieu et qu'il n'y a pas un lieu auquel on doit s'identifier seulement. On peut tout à fait appartenir au monde. Et lorsque j'étais adolescente, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que je me suis retrouvée avec toutes ces cultures, ces différentes possibilités.
C'est pour toutes ces raisons que vous avez demandé il y a quelques années la nationalité britannique.
J'ai fait pour ma mère parce que ma mère était décédée. Elle n'a jamais pu récupérer son passeport de son vivant, mais la loi a changé entre-temps. Au Royaume-Uni, et donc j'ai pu récupérer cette nationalité qui me venait de ma mère, donc j'ai fait pour elle.
En tout cas, vous avez grandi dans une double culture, Julie. Julianne, quelle richesse est-ce que ça a été? Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre des Américains notamment?
Well, it's interesting because
c'est intéressant parce que ce n'est pas inhabituel d'avoir une double culture aux États-Unis. Nous sommes un pays d'immigrants. La plupart d'entre nous, nous avons de la famille qui vient d'ailleurs et très souvent, très récemment. Donc, c'était pas, je n'étais pas un cas isolé du tout. Vous savez, de toute façon, il ne fallait pas creuser beaucoup, même si on n'était pas américain de la première génération. Les ancêtres étaient venus dans le XXe siècle. Donc, les Américains, souvent, s'identifient en disant « Ah, ma famille est irlandaise » ou « Ma famille était allemande » ou « autrichienne ». C'est des choses qu'on entend très souvent. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Je pense que c'est vraiment important de savoir d'où on vient. Et c'est aussi peut-être pourquoi l'Amérique est un lieu où tout le monde se dit « je peux m'identifier à ce pays ». C'est d'autant plus triste ce qui se passe en matière d'immigration actuellement.
Quel genre d'éducation est-ce que vous avez reçu, Julianne? Une éducation stricte, une éducation faite de principes avec un père militaire?
Mes parents étaient très jeunes. Et pour eux, l'éducation, c'était très important. J'ai été dans des écoles privées. On a beaucoup déménagé, je vous le disais. Mais en tout cas, c'est en lisant que j'ai beaucoup appris. Et je lisais énormément. Lorsqu'on déménageait, j'allais à la bibliothèque où j'ai beaucoup lu. Et puis j'ai voyagé aussi. Parce que je le disais, j'ai beaucoup déménagé aux États-Unis. Puis ensuite, nous sommes venus en Europe. Et je crois qu'on ne peut connaître les choses que si on sait qu'elles existent, soit qu'on les a vues, soit que par son éducation, on connaît leur existence. Et j'ai eu cette chance de voir beaucoup de choses très jeune.
Pour autant, la littérature, c'était un refuge pour vous?
Oui, c'était un refuge. Et puis, c'était du plaisir, vraiment. Je dis toujours, je me souviens, j'étais encore toute jeune, j'ai compris que la lecture, c'était un moyen de communiquer, de parler de la condition humaine. Et je dis, on lit quelque chose, je dis, mais comment est-ce qu'ils savent ça? Comment est-ce qu'ils savent ça de moi? Et puis ensuite, on grandit, on se dit, bah évidemment, ce n'est pas que moi, ça raconte l'histoire de tout le monde.
Vous pensez à quel livre en particulier, vous qui aujourd'hui écrivez des livres pour enfants?
Oui, enfin, j'écrivais surtout parce que mes enfants ont grandi, ils ont 17 ans et 21 ans. J'ai écrit des livres d'enfants lorsque mon fils avait 7 ans, donc ça fait un moment que tout de même. Et ça fait un petit moment que je ne l'ai plus fait. Bon, c'est vrai qu'ils sont passés à une autre tranche d'âge et j'ai un petit peu perdu mon intérêt pour ce genre littéraire.
Mais peut-être les premiers livres qui vous ont marqué?
Quand j'étais petite, je dirais probablement Louisa May Alcott, comme la plupart des filles de ma génération.
Les quartiers du docteur Marsh, Julianne. Et aussi des petits garçons.
You loved it, good girl. Vous aussi, ça fait plaisir.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à vous entendre, on devine une jeune fille assez introvertie. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que vous aimeriez apparaître sur un écran de cinéma ou apparaître sur scène?
J'avais pas envie d'être sur scène. Je fais pas partie de ces gens qui veulent être devant un public. Je faisais pas de danse, je ne dansais pas. Ma sœur, par exemple, elle a fait de la danse. Moi, j'ai pris quelques leçons de piano, pas très longtemps d'ailleurs. Mais c'est la lecture, en fait, qui est à l'origine de tout. Vous savez, aux États-Unis, après l'école, il faut toujours avoir une activité extrascolaire. Moi, je n'étais pas très bonne en sport. Et je ne faisais pas non plus la majorette pour les équipes de sport. Et donc, j'avais une amie, on s'est dit toutes les deux, on va faire théâtre. Et ça marchait bien pour moi. Je me suis dit, en fait, c'est une extension de la lecture, un prolongement. Donc, j'aimais être dans l'histoire sur scène. Pas vraiment jouer en tant que tel. C'est comme ça que ça s'est fait.
On a beaucoup parlé de sensations pendant cette émission. Est-ce que vous savez ce que vous avez ressenti la première fois que vous êtes montée précisément sur scène?
Je me souviens pas forcément de tout. Je me souviens de la première audition, en fait. Vous savez, on vous appelle. Et c'était facile, en fait, pour moi. C'est-à-dire que les mots coulaient de source, je les comprenais. Et ça, je me suis dit, j'entendais les voix, en fait, quand je lisais le texte. Et je me disais, c'est pareil pour tout le monde. Et en fait, j'ai été très surprise. Je me suis rendu compte, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas pareil pour tout le monde. Et je me suis dit, je peux peut-être faire ça.
Est-ce que vous avez ri?
I don't know if I did.
Je me souviens pas.
Merci infiniment, Julianne Moore, d'être venue faire un tour dans cette émission. Quel honneur. Je rappelle que Gloria Bell de Sébastien Lelio, avec l'excellent John Turturro, notamment sur le 1er mai. C'est un très beau film. Merci également à votre interprète ce matin, la très glorieuse Hélène Joguet. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
Mise à mort. La vie d'avant ne m'allait pas. Évidemment que j'avais tort. Téléphone-moi encore. Je promets que je ne répondrai pas. Et ça me dévore. Je ne veux pas voir ça.
Transformation.
Transformation.